Alors merci d'être revenu. C'est la promesse que vous aviez faite la semaine dernière. Alors je constate que vous êtes nombreux à être revenus. Alors vous êtes canette ou balle de tennis ? Alors ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent là ? Qu'est-ce qu'il leur a fait la semaine dernière pour les faire revenir ? Ben, je leur ai parlé de ça, la canette ou la balle de tennis. Deux objets qui illustrent deux formes de changement en fait. Un changement provisoire, quand on appuie dessus, j'ai pas assez de force, c'est vraiment dur. Teddy Riner, est-ce qu'il est là? Je pense que s'il était là... Donc, avec la force, on peut appuyer dessus, mais si on lâche, ça revient comme avant. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est le changement que beaucoup connaissent, en fait. Ils changent, ils veulent changer, ils prennent des bonnes résolutions. Ça tient des fois une heure. Des fois un peu plus longtemps, puis hop, ça reprend sa forme initiale, au bout d'un certain temps. Et puis il y a le changement définitif. Voilà. Quand cette canette, elle est écrasée, ça va être dur de la remettre dans sa forme initiale. Le changement qui nous intéresse, c'est bien sûr le changement définitif. Il y a le changement à durée limitée, hein, le CDL, je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez peut-être plus le CDI, changement à durée illimitée. Bah, indéterminé dans l'emploi, bien sûr, mais pour nous, c'est illimité. C'est le CDI qui nous intéresse. Alors, nous allons poursuivre ce matin sur ce thème de la largeur et de la profondeur, j'allais dire encore la longueur. C'est un Corinthiens 13 qui m'a trop marqué. Vous savez, c'est les quatre dimensions de l'amour, hein. La largeur, la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour dont Paul parle. Là, je garde que deux dimensions, la largeur et la profondeur, en fait, de l'Évangile. Et le plan qu'on a suivi la semaine dernière, mais qu'on n'a pas eu le temps de terminer, qu'on va terminer ce matin. Donc le contexte de l'épisode à Antioche, on prend un exemple concret d'un changement dont Pierre pensait qu'il était définitif et il a réalisé qu'il n'était pas définitif. Donc ensuite, on nous amène à parler de la largeur de l'Évangile, on a surtout parlé de ces deux points, et on va surtout s'arrêter ce matin sur le troisième, la profondeur de l'Évangile. Mais revenons un peu sur les deux premiers points, sur le contexte. À partir de cet épisode dans Galates, chapitre 2, alors ceux qui n'étaient pas là, peut-être le mieux c'est quand même de lire ces quelques versets, c'est pas long, qui nous raconte cet épisode qui s'est passé à Antioche lorsque Pierre, l'apôtre Pierre, était à Antioche pour rendre visite à cette nouvelle église. Mais lorsque Céphas, c'est bien sûr son premier nom à cet homme avant d'être appelé Pierre par Jésus, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais, c'est Paul qui parle, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vises à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Si on avait posé la question à Pierre avant cet épisode pour lui demander s'il avait bien compris ce que Jésus, ce que Dieu lui avait révélé par vision avant de rendre visite à la famille de Corneille pour leur apporter l'évangile, vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous cet épisode. Parce que Pierre était un juif, bien sûr, attaché à la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, il y avait la loi alimentaire et qui faisait qu'il y avait des aliments impurs et des aliments purs. Et ce qui faisait aussi que ces juifs, pour respecter cette loi, ne voulaient pas aller dans la maison d'un non-juif, d'un païen qui ne respectait pas ce genre de loi. Donc Pierre n'aurait jamais mis les pieds chez un païen. Et pourtant, il était appelé à aller dans la maison d'un païen pour apporter l'évangile, la grâce, le message de la grâce à cette famille de Romaine, la famille de Corneille. Et donc Dieu lui a révélé par vision qu'il pouvait manger de tout et que cette loi alimentaire, elle avait sa raison d'être dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. C'était pour leur enseigner quelque chose sur, bien sûr, la sainteté de Dieu, mais que maintenant qu'ils étaient dans la nouvelle alliance, eh bien, ces lois-là n'avaient plus lieu d'être et qu'ils pouvaient maintenant manger avec tout le monde. Et c'est ce que Pierre, semble-t-il, avait compris. À partir de ce moment-là, c'est la raison pour laquelle il est allé dans la famille de Corneille et il leur a apporté l'évangile, a certainement mangé avec eux aussi. Et il a continué à le faire, même lorsqu'il est arrivé à Antioche. C'était une église où il y avait bien sûr une majorité de non-juifs. Et là, ils avaient des agapes, ils mangeaient ensemble, et Pierre, et avec joie, partageait ses repas avec eux. Ça ne posait pas de problème, jusqu'au moment où des juifs sont arrivés de Jérusalem, qui étaient beaucoup plus stricts, beaucoup plus sévères, et eux disaient, non, ces lois-là n'ont pas disparu, elles demeurent encore, et il faut les garder. Et on ne peut pas être un bon chrétien si on ne pratique pas cette loi. Et quand ils sont arrivés à Antioche, Pierre a pris peur. C'est ce que Paul nous raconte ici. Il a été intimidé par eux, il a pris peur et il a arrêté de manger avec ces non-juifs. Ce qui a dû être terrible pour eux, parce que là, c'était une forme de rejet. Et c'était Pierre quand même, un apôtre qui avait été avec Jésus, qui était considéré comme un des grands chefs spirituels de cette église. Et ça a dû être très, très violent pour ces chrétiens d'Antioche d'assister à cela. Et on réalise une chose, c'est que le changement chez Pierre, à ce moment-là, sur cette question-là, il n'était pas suffisamment profond, en fait. Ce n'était pas un changement définitif. Il a cru qu'il était définitif, mais en fait, il était limité dans le temps. C'était un changement à durée limitée, en fait. C'est ce qu'il a réalisé à ce moment-là. Et parfois, nous aussi, c'est ce qu'on réalise. Des fois, on pense qu'on a vraiment changé. On se voit réagir d'une manière différente, faire les choses autrement, etc. Et on se réjouit, on dit « ça y est, maintenant, c'est derrière moi. Maintenant, je suis complètement transformé. » Et puis, il se trouve une circonstance, un événement, et on est ramené un an ou deux en arrière en réagissant de la même manière. C'est exactement ce que Pierre a vécu. Alors la réaction de Paul a été de dire à Pierre, écoute, là tu n'es pas en phase avec la vérité de l'évangile. En fait, ce que tu as encore plus besoin, c'est plus d'évangile. C'est ça que tu as besoin. En fait, quand on regarde ce que c'est ce groupe, on va appeler le groupe des circoncis, ce qu'ils pensaient, eux, par rapport au salut, c'était ce que vous avez à gauche, Christ. Ah oui, Christ, pour eux, c'était important. Christ, c'était des chrétiens quand même, ils se considéraient comme tels. Message de Christ, l'œuvre de Christ, la croix, tout ça, c'était important. Donc, il fallait accepter Christ, reconnaître Christ comme son sauveur. Donc pour eux, ils étaient très attachés à Christ. Il fallait Christ pour le salut. Mais c'était Christ plus la loi. Et la loi de Moïse, et notamment ces lois alimentaires et autres, c'est ces lois-là qu'il fallait suivre si ils voulaient être sauvés. Le salut était à cette condition. Ça, c'était leur équation. J'ai appris hier qu'il existait une équation, des équations canoniques. C'est notre mathématicien ici, je ne sais pas s'il est là, Xavier, qui m'a appris cela. On parlait du canon des Saintes Écritures, donc il y a l'équation canonique. Alors, je ne sais pas si c'est une équation canonique, mais en tout cas, c'était l'équation pour le groupe des circoncis. Christ plus la loi égale salut. Donc c'est pour ça que Pierre a été impressionné. Parce qu'il savait ce qu'il pensait, et il avait peur certainement des retours, ou de son retour à Jérusalem après cela. Alors que dans l'Évangile, ben c'est une autre équation. C'est Christ égale salut, c'est le salut complet, total, plus la loi. Ça nous amène à obéir à la loi par la suite, bien sûr. Donc, vous voyez, les éléments sont exactement les mêmes, sauf qu'ils ne sont pas dans le même ordre. Le groupe des circoncis mettait la loi avant le salut, alors que l'Évangile met la loi après le salut. Lorsqu'on a reçu ce salut, lorsqu'on a été sauvé et pardonné, nous sommes en mesure à obéir à cette loi. Nous pouvons obéir à cette loi. Eux, les circoncis disaient qu'il fallait obéir pour être sauvé. L'Évangile nous dit, nous sommes sauvés pour obéir. C'est là l'ordre, la différence dans cet ordre. Bien évidemment, on se rend compte que l'obéissance pour le salut, ça ne sera pas du tout la même que l'obéissance avec le salut. Imaginez l'obéissance pour le salut. Si je dois obéir pour le salut, si je dois d'abord faire quelque chose, entreprendre, réaliser, pour être sauvé, je risque souvent d'être dans la crainte. Parce que je vais me demander très souvent si j'en fais suffisamment, si j'ai assez réussi, si j'ai fait ce qu'il fallait. Donc forcément, il va y avoir un sentiment de crainte qui va facilement se manifester dans cette obéissance pour le salut. Regardez du côté des religions, de ceux qui ont cette conception du salut, c'est comme ça qu'ils vivent très souvent. La religion est souvent associée à la crainte, mais pour une bonne raison, c'est que si c'est à moi d'obéir pour être sauvé, mais est-ce que je le fais vraiment bien? Et puis, autre chose, dans cette obéissance pour le salut, c'est l'égoïsme. C'est que je le fais et j'obéis pour obtenir quelque chose. Si je suis appelé à aimer mon prochain, je ne veux pas aimer mon prochain uniquement pour mon prochain, je vais l'aimer pour moi aussi, parce que moi, dans cette affaire, j'ai quelque chose à gagner. Moi, j'ai une récompense derrière. Donc, lorsque je veux aimer l'autre, comme la loi me le demande, je vais le faire aussi pour moi, et peut-être même d'abord pour moi. Je veux peut-être manifester cet amour en donnant de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, en étant ainsi très charitable, mais je vais lui donner cet argent, mais c'est aussi pour moi. L'obéissance avec le salut, ça sera une autre obéissance. Si j'obéis maintenant à Dieu, et si je suis là au culte ce matin parce que je veux obéir à Dieu, bien sûr, je ne le fais pas dans la crainte, je le fais plutôt dans la reconnaissance. Je peux aimer Dieu ce matin pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il va me donner. Je peux aimer mon prochain aussi pour ce qu'il est, et non pas pour ce que ça va me rapporter, parce que le salut est déjà là. La grâce m'a déjà été donnée. Donc, dans l'obéissance pour le salut, ça sera une obéissance qui sera souvent faite dans la crainte, vécue dans la crainte, dans l'égoïsme et dans l'orgueil même, parce que si je crois que j'ai réussi, je vais être très fier de moi. Alors que l'obéissance qui est faite avec le salut, parce que je suis sauvé, c'est une obéissance qui peut être manifestée dans la joie et dans la reconnaissance, et je peux être là ce matin non pas avec le sentiment de me dire, voilà, je vais apporter quelque chose de plus pour que, voilà, pour plaire à Dieu, pour être accepté par lui. Non, je le fais parce que je suis déjà accepté et je viens vers lui librement pour le remercier. Vous savez, si j'ai le cœur vide, je vais venir vers Dieu pour qu'il le remplisse. Mais si j'ai un cœur qui est rempli par Dieu, par la grâce, par le salut, ben je peux aimer Dieu et mon prochain tout à fait librement. Je ne veux pas le faire pour être rempli de quelque chose. C'est déjà le cas. Ça va complètement changer notre manière d'obéir. Et examinons, hein, observons notre manière d'obéir, notre obéissance. Est-ce que nous faisons dans la crainte? Est-ce que nous faisons dans le but de récupérer quelque chose, de recevoir quelque chose? Si c'est le cas, c'est plutôt l'obéissance qui se rapproche de celle du groupe des circoncis. Ce n'est pas celle que l'on trouve dans l'Évangile, en fait, qui est la reconnaissance, bien sûr, la joie d'appartenir à Dieu. Paul a répondu à Pierre en lui disant, écoute, ce que tu as besoin, c'est plus d'Évangile. Pourtant, l'Évangile, il connaissait bien, Jésus, il connaissait, il savait ce qu'il avait fait, il croyait en lui, il était même son apôtre. Mais il avait encore besoin de plus, l'Évangile. Parce que l'Évangile, eh bien, elle touche tous les domaines de notre vie. C'est ce qu'on a vu, je ne veux pas détailler cela, mais juste rappeler la pensée principale. Le problème de Pierre, du fait de son judaïsme, c'est qu'il était devenu nationaliste et même raciste à l'égard des autres nations. Ce n'est pas seulement le cas pour cette nation, c'est souvent ce qu'on trouve dans beaucoup de nations, des gens qui sont nationalistes et racistes à l'égard des étrangers. Et l'argument que Paul utilise pour remettre Pierre dans le droit chemin, ce n'est pas de lui rappeler que Dieu condamne le racisme, ça, il aurait pu lui donner des textes dans l'Ancien Testament dans lesquels Dieu montre à quel point nous sommes appelés à aimer l'étranger, à accueillir, à accepter, c'est ce que Paul a demandé plus. C'est ce que Dieu plutôt a demandé à Israël de faire, hein, et c'est ce qu'il a dit à Israël un certain nombre de fois, de faire avec les étrangers. Il aurait pu lui rappeler tout cela. Non, il lui rappelle l'Évangile, en fait. Parce que l'Évangile, on l'a vu ça la semaine dernière, nous donne une nouvelle vision, une nouvelle représentation du monde, en fait. Elle change nos croyances fondamentales. On a tous des croyances fondamentales. C'est-à-dire, on a tous une vision du monde qui nous a été transmise dans notre éducation, bien sûr, à la maison, à l'extérieur, à l'école et dans la société dans laquelle nous sommes. Et on est tous ainsi influencés parce qu'on regarde ce monde, les événements qui nous arrivent dans cette vie, à travers le filtre de nos croyances, de notre vision du monde. Donc, si on a une vision du monde dans laquelle Dieu n'existe pas, par exemple, ben on va regarder tout ce qui nous arrive à travers ce filtre-là. C'est-à-dire, Dieu n'existe pas. Alors que si, dans ma vision du monde, dans ma conviction profonde, Dieu existe et Dieu est présent et Dieu est vivant, c'est vrai que ça va changer mon regard sur les événements que je vais connaître. Donc l'Évangile vient nous apporter une nouvelle vision du monde, en fait. Nous voyons le monde et ce qui nous arrive ou ce qui nous attend demain par le filtre de l'Évangile. Et ça doit influencer, en fait, toute notre vie. Nous sommes, ça influence notre façon de gérer notre vie, les choses matérielles. On a parlé la semaine dernière. Ce qui concerne notre avenir, par exemple, ou notre passé. Enfin, je ne veux pas avoir... Si je suis chrétien, vous savez, quand on parle, par exemple, de la mort, je n'ai pas la même réaction et le même sentiment que quelqu'un qui ne croit pas. Forcément, je vais avoir ce qu'on appelle une espérance. Cette foi-là, face à un tel événement... que ce soit celle de mes proches quand ils s'en vont ou de moi-même, ben ça va me donner et ça va m'apporter une autre, quelque chose d'autre que si je ne crois pas en Dieu. C'est cette vision du monde que l'Évangile me donne et qui va toucher tous les aspects de ma vie, en fait. la vision du monde fondamentale de l'Évangile. Je l'ai donné la semaine dernière, je le rappelle, c'est d'abord que Dieu est le créateur de ce monde. Ça veut dire que Dieu a un plan pour ma vie a un sens. Si Dieu existe, oui, elle a un sens. S'il m'a créé, s'il m'a voulu, Dieu a un plan pour ma vie, un destin pour moi. Il faut avoir confiance en lui pour, par rapport à ma vie. Si je crois dans cette parole, ben la parole de Dieu m'explique pourquoi le mal existe dans ce monde. Et que le mal, c'est une révolte, une rébellion de l'homme contre Dieu, en fait. C'est un rejet de Dieu. C'est ainsi que la Bible explique le mal. Donc quand je veux regarder le mal qui est autour de moi ou qui est en moi, c'est comme ça que je vais l'analyser. C'est d'être contre Dieu, en fait. C'est de rejeter Dieu. C'est pas seulement le mal qui va rejeter les autres, qui va faire du mal aux autres, ou même à moi-même, mais c'est un mal contre Dieu, en fait. Ça va orienter ma vision, mon analyse par rapport au mal. La Bible me parle, bien sûr, que par rapport à ce mal, il y a un remède. Si je ne crois pas en Dieu, pensez à ceux qui ne croient pas en Dieu, aux athées par exemple, ils ne peuvent pas nier que le mal existe, que les choses ne vont pas bien. Il y a un problème dans ce monde. Mais eux, le remède, qu'est-ce qu'ils vont chercher comme remède? Ben, ils vont chercher des remèdes d'ordre social, d'ordre politique par exemple. Et on se dit, voilà, si on donne aux gens suffisamment d'argent, si on est un peu plus dans l'égalité dans ce monde, eh bien, le monde ira mieux et le mal disparaîtra. C'est le remède qu'il propose, c'est le remède auquel il croit, bien sûr. Mais si moi je suis un chrétien, non, ma vision du monde par rapport au remède sera complètement différente. C'est le remède que l'Évangile me propose, bien sûr, au travers de la personne de Jésus. C'est le salut qui se trouve en Christ. Ça, c'est le vrai remède au problème du mal qui est en moi. Là, dans mon cœur et dans ma vie, comment m'en débarrasser? C'est le remède que l'Évangile apporte. C'est le thème du salut qui est le thème dominant de toute la Bible, bien sûr. Et puis par rapport à demain, à mon avenir, ce qu'il peut y avoir après la mort, ben la Bible parle d'une nouvelle création. Donc forcément, ça m'apporte quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui est de l'ordre de l'espérance. Face à cette réalité-là, qui est celle de la mort. Ça va changer complètement ma façon de réagir, ma façon de vivre, de me conduire. Lorsque j'ai ce genre de croyance, et bien sûr, ça va influencer, comme je disais tout à l'heure, toute ma vie, en fait, tous les domaines de ma vie. Les biens matériels, la gestion de l'argent, la sexualité, l'attitude que je peux avoir par rapport aux pauvres, le regard que je peux avoir par rapport à mon passé. Je sais que toutes choses sont anciennes, toutes choses sont devenues nouvelles. L'attitude par rapport aux étrangers, puisque c'était le problème que Paul avait avec Pierre lorsqu'il se séparait de ceux qu'il considérait comme des étrangers. À Antioche, nous ne voulons plus manger avec eux. Pierre, les Juifs en général, bien sûr, à son époque, c'était servi de ces lois concernant la pureté pour se couper des autres en pensant qu'ils étaient au-dessus des autres. Parce que les autres, c'était des impurs. Et bien sûr, il fallait, pour rester pur, il fallait s'éloigner des impurs. Ça, c'est la largeur de l'Évangile. C'est vraiment l'Évangile qui touche tous les domaines de ma vie, en fait. Il doit pénétrer dans toutes les sphères, dans tous les aspects de ma vie. Mais il n'y a pas que cela dans l'Évangile, il y a la profondeur de l'Évangile. Lorsque Paul s'adresse à Pierre et qu'il lui dit, écoute là, ton principal problème en fait, c'est par rapport à l'Évangile. C'est que l'Évangile en fait n'a pas assez pénétré dans ta vie et dans ton cœur. Il a déjà commencé à faire quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Il en faut plus encore. Comment cela? Comment est-ce qu'on peut parler de la profondeur de l'Évangile? Il y a quelque chose que nous avons tous besoin les uns les autres en tant qu'êtres humains. Quelque chose qui est fondamental, c'est de savoir qu'on a du prix et de la valeur aux yeux des autres. Je ne sais pas comment vous êtes, mais si vous êtes un homme et une femme, c'est comme cela que l'on vit en fait. C'est de savoir qu'on a de l'importance aux yeux des autres, qu'on compte aux yeux des autres. Et dans ce sens, on cherche tous à savoir cela et à combler cela en fait. Si on a peur de ne pas l'être, parce que c'est souvent ça le problème, si on a peur de ne pas compter aux yeux des autres, c'est parce qu'il nous manque quelque chose, bien sûr. Et qu'on va chercher à obtenir de mille manières. Savoir qu'on a de la valeur, chercher de la reconnaissance de la part des autres. Et c'est ce besoin fondamental qui va, par exemple, se traduire dans le racisme ou dans le nationalisme. Ceux qui pensent qu'ils sont une race supérieure, c'est pour eux un moyen de se dire on est, nous, au-dessus des autres, on a de la valeur. Nous, on est supérieurs aux autres. C'est de chercher ça au fond de soi-même. Et c'était le problème de Pierre aussi, qui l'avait amené dans cette attitude. Alors on va essayer de combler ce besoin de mille manières. Alors on va le faire, bien sûr, ça peut au travers des études ou au travers de notre vie professionnelle, lorsque on cherche à avoir du succès, parce que là on se dit, ben, ça y est, on va compter. On va pouvoir dire qu'on existe et qu'on a de la valeur. On va être reconnu comme tel. Ou au travers de l'argent que l'on peut gagner, si on a un peu plus d'argent que les autres. Au travers d'une histoire d'amour, parce qu'on cherche à être aimé, mais on cherche à être aimé pour combler ce vide. Lorsqu'on fonde une famille, lorsqu'on veut avoir des enfants. Enfin, dans tous les domaines de la vie, en fait, c'est toujours ce que l'on cherche à satisfaire et à combler. C'est cette poursuite infernale, on peut dire, pour la reconnaissance, pour savoir qu'on a de l'importance, qu'on a de la valeur ou qu'on a du prix, que l'on compte. Ça, c'est notre problème de fond, en fait. Et c'est ce qui explique nos comportements, nos attitudes. C'est ce qui expliquait le comportement de Pierre à ce moment-là. L'Évangile est là pour répondre justement à ce besoin. Lorsque l'Évangile nous dit que Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure, nous avons du prix ou de la valeur à ses yeux. Vous savez, quand vous regardez la croix, ça veut dire quoi la croix? Ça veut dire cela, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Aux yeux de Dieu, j'ai du prix, parce que s'il a fait tout cela pour me sauver, c'est que je dois avoir du prix et de la valeur. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Enfin, quand je regarde la croix, c'est Dieu qui me dit, ben, regarde à quel point je t'aime, à quel point tu as de la valeur pour moi. Regarde ce que je suis capable de faire, jusqu'où je suis capable d'aller pour te montrer que j'ai de la valeur. Parce que tu as de la valeur pour moi. Le problème de Pierre, c'est que même s'il avait vu Jésus mourir, il l'a vu mourir, lui. Il l'a vu crucifié, il a su pourquoi il l'avait fait. Mais ce n'était pas descendu assez profondément en lui, en fait. Donc il cherchait à combler ce besoin-là d'une autre manière, par d'autres voies. Il n'était pas totalement libéré, en fait. Donc, vous imaginez. Parce que ça, c'est intéressant. Moi, ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est que ça soit arrivé à Pierre. Vous voyez? Si c'était arrivé à un des derniers disciples qui venait de se convertir et qui était un peu faiblard dans sa foi, on dirait, bon, bah, le pauvre, oui. Mais c'est arrivé à Pierre. Quand vous voyez tout le cheminement de Pierre, tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il était devenu au travers de Christ, l'apôtre de Christ, lui qui avait proclamé l'Évangile à Jérusalem pour la première fois avec un succès extraordinaire pour implanter cette première église, eh bien malgré cela, ce Pierre-là, il n'avait pas encore vu l'Évangile descendre suffisamment profondément en lui. Alors moi je me dis une chose, si c'est arrivé à Pierre, ça peut vous arriver à vous. Non, à moi, je veux dire. Mais j'espère que vous dites la même chose. Parce que c'est ce qu'on peut se dire face à cela. C'est se dire, mais si Pierre, lui, qui est passé par toute cette école, qui n'était pas un néophyte, lui, il avait déjà une expérience spirituelle profonde. Il avait déjà compris bien des choses. Si lui est encore en train de lutter avec ça, ben, ça peut dire que oui, vous et moi, ou moi et vous, on peut aussi encore lutter avec ça. Et on lutte avec ça. Et ça se voit, des fois ça s'entend. On n'a pas encore vécu cette véritable libération qui est que dans l'Évangile, et c'est ce qu'il y a d'unique, Dieu nous donne cette valeur que nous désirons tant en fait. Parce que le jour où nous sommes vraiment, où l'Évangile est descendu suffisamment en nous, on va réaliser une chose, c'est que non seulement on a plus le droit de se sentir supérieur aux autres, par exemple, pour essayer d'avoir de la valeur. On n'en sent même plus le besoin. On n'en sent plus le besoin. Parce que vous savez, quand un besoin est satisfait, ben, ça va, il est satisfait. Hein. Vous savez, quand vous avez mangé... Qu'est-ce qui va suivre? Quand vous avez mangé une bonne choucroute, tiens, voilà. Et vous en avez repris trois fois. Même si on vous présente après cela votre meilleur dessert, quoi qu'ils sont capables de le manger aussi. Je l'ai vu, ça. C'est pas mon problème, donc ça, je peux pas le faire, mais... Mais lorsque vous êtes satisfait de quelque chose, vous n'allez pas courir après. C'est fini. C'est quand vous avez faim, c'est quand vous avez soif que vous courez après ces choses. Donc, si au travers de Christ, nous sommes totalement satisfaits, si l'Évangile est descendu suffisamment profondément en moi, mais je ne vais pas aller courir après cela. Je l'ai déjà. Là, ça peut être un changement définitif, un vrai CDI, vous voyez. Vous savez, on ne pourra jamais changer nos cœurs avec notre seule volonté. On a essayé. Hein. On a essayé, on sait bien des fois, on s'en est pris à nous-mêmes en disant « Non, tu ne peux pas refaire ça, c'est pas possible, regarde quel comportement tu as eu. » Enfin, on a honte de cela, on est mal et on se dit « Non, c'est fini, je ne dirai jamais plus cela. Je ne me mettrai jamais plus en colère. Je ne ferai jamais plus cela. » Ouais. Seulement, ça dure combien de temps? Tout dépend de ce qu'on a en face de soi. Le vrai changement, il passe et il vient au travers de Christ, en fait. C'est ce que Paul disait à Céphas ou à Pierre. Il disait, non, Céphas, t'as... L'Évangile n'est pas encore... suffisamment en toi, en fait. Au verset 20, Paul dit cette phrase assez étonnante. Il dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » On lit ça, on dit Paul... T'es cohérent là, hein? Faut savoir, faut que tu choisisses quand même. Soit je vis ou soit je vis pas. Je peux pas vivre et ne pas vivre, ou ne pas vivre et vivre. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est plus moi qui vis, donc je vis plus. Puis la phrase après, il dit, je vis. Vous comprenez ça? Et Paul aussi, il comprenait bien sûr. Mais il voulait dire une chose. C'était un paradoxe qu'il a voulu bien sûr pour faire ressortir quelque chose. Quand il dit « je ne vis plus » parce que, bien sûr, c'est plus moi qui vis parce que je suis en Christ. Dans un sens, notre conversion, en fait, on pourrait dire, nous a fait disparaître en Christ. Que Dieu nous voit au travers de Christ aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous voit comme parfaits, comme justes. C'est parce que nous avons réussi à obéir à la loi, bien sûr. C'est parce que Christ a obéi à la loi. Donc maintenant que je suis en Christ, Dieu me voit au travers de Christ et il me voit comme Christ, en fait. Dans ce sens-là, je suis comme caché en lui. C'est ce que Paul dira aux Colossiens lorsqu'il dira « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Donc, ça, c'est ce qui peut me permettre de vivre cette satisfaction, d'être totalement comblé, de savoir à quel point j'ai de la valeur à ses yeux, à quel point je suis important pour lui. Et s'il me comble à ce niveau-là, bien, je ne veux pas essayer de le rechercher ailleurs. Alors, si je l'ai ailleurs, oui, si les gens me disent « t'as bien travaillé, t'as fait du bon travail, tu comptes pour nous, t'as de la valeur », je vais être content, bien évidemment. Bien sûr que je vais être content. Mais s'ils ne me le disent pas, et si des fois ils disent le contraire, ce qui arrive aussi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais m'effondrer totalement et disparaître, tomber en dépression? C'est ce qui arrive à des gens. Il n'en faut pas plus, vous savez. Quand vous regardez des gens qui sont dépressifs, regardez où ça a commencé. Je ne dis pas que c'est vrai pour tous, mais c'est certainement vrai pour un certain nombre. Mais si ma vie est cachée en Christ, si je sais que je suis en Christ et que lui m'a totalement satisfait, alors je vais pouvoir vivre, oui, vivre pleinement. C'est peut-être là qu'on peut faire le test, vous savez. Est-ce que je constate, c'est la question qu'on peut se poser les uns et les autres, est-ce que je constate que je suis encore en train de lutter avec ça? Me disant, voilà, si tu fais cela, tu... Ah là là, oui. Oh, si tu réussis à faire cela, tu vas voir. Ah, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Qu'est-ce que tu vas voir comme retour? Qu'est-ce que tu vas gagner à ce niveau-là? Et puis, si ça n'arrive pas... Et si je suis dans cette lutte, ça sous-entend bien évidemment que l'Évangile, il n'est pas là. Il n'est pas là aussi profond qu'il devrait l'être, en fait. Oui, c'est comme la fameuse pièce dans le distributeur automatique. Elle est tombée dedans. Mais elle n'a encore rien déclenché. Il faut que l'Évangile descende suffisamment profondément. Quand il est bien descendu, ça peut m'amener à dire, par exemple, comme Paul l'a dit une fois dans 1 Corinthiens 4, il dira cette phrase extraordinaire. Il dira, vous savez, parce que les Corinthiens, vous savez, ils n'ont pas fait de cadeau. Hein. Au niveau des critiques, ils étaient assez généreux. Il aura cette phrase, et Paul aura cette phrase, elle est extraordinaire. Il dira, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui est libre. Il dit, oui, vous allez me critiquer, vous me critiquez, ouais. Mais c'est pas pour moi, ça ne me trouble pas plus que cela. Pourquoi? Parce que bon, c'était des critiques qui étaient bien évidemment excessives, qui injustes. Hein. Il y a des critiques qui peuvent être bonnes, bien évidemment. Mais là, c'était des critiques, vraiment des accusations, des fausses accusations, ce qui concerne sa personne, son ministère, etc. Donc... Mais Paul entendait cela, il savait cela, c'est pourtant des chrétiens, il avait fondé cette église, il était attaché à ces chrétiens, il les connaissait personnellement pour beaucoup d'entre eux. Et il était critiqué comme ça, et il leur dira, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Ce qui comptait au plus profond lui-même pour Paul, c'est ce que Dieu pensait de lui, en fait. C'est ce que Dieu pensait de lui, et il savait ce qu'il pensait de lui. Ah, il savait que, bien évidemment, il n'était pas parfait et que Dieu n'était pas en train de lui dire qu'il n'avait jamais commis d'erreur, c'est pas ça, mais il savait qu'en Christ, il était aimé de Dieu. Il savait cela. Il savait cela au plus profond lui-même et c'est ce qu'il faisait qu'il était totalement libéré et qu'il pouvait faire face aux critiques, au mépris de la part des autres. Non pas que c'était agréable pour lui, mais ça ne le détruisait pas. Pourquoi? Parce que il savait qu'il avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et de savoir cela, c'est ce que l'Évangile lui avait apporté, et que c'était suffisamment là, en profondeur, dans son cœur, alors il pouvait faire face à cela. Il savait qu'il était une perle de grand prix. Quand on sait qu'on est une perle de Grand Prix, ça libère. Et c'est ce que l'Évangile nous dit. Jésus l'a même raconté dans une parabole, cette perle de Grand Prix. Nous sommes cette perle de Grand Prix. Si nous réalisons au travers de Christ et de la croix qui est symbolisée ici dans ce repas qu'on va partager dans quelques instants, mais bien évidemment, ça va me libérer. Bien évidemment. Donc si, et c'est ce qu'on va, on va demander à Dieu ce matin, je crois qu'il faut essayer d'appliquer cela dans notre vie, essayer dans ce domaine-là de faire un pas de plus. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas encore d'autres pas à faire, mais il faut en faire un pas de plus. On en a déjà fait dans ce domaine, et certainement certains pourraient témoigner et dire, voilà ce que j'ai vécu maintenant, et voilà comment je réagis maintenant, j'aurais jamais réagi comme cela avant. Maintenant je peux pardonner comme jamais j'aurais pu pardonner. Enfin, tout cela, on le mesure déjà. On bénit Dieu pour cela. Mais si Pierre, lui, était encore bloqué avec ce problème, s'il avait encore ce problème dans sa vie, pensons pas que nous, on est totalement libérés et que tout va bien pour nous. Non, pour autant, il y a certainement encore des progrès à faire, quelque chose à faire. Alors, à partir de cet exemple que l'Évangile que Paul nous laisse dans l'Épître aux Galates, on va, et le cas de Pierre justement, on va essayer de demander à Dieu aussi de nous parler. En fait, imaginons ce matin que c'est pas moi qui vous parle, c'est Paul qui vous parle. Oui. Comme Paul a parlé à Pierre. Devant le comportement de Pierre, Paul a dit à Pierre, mais tu sais ce qui te manque, Pierre ? C'est un peu plus d'évangile. C'est ce que tu as besoin. Ça, c'est la solution. Si tu as un peu plus d'évangile, si tu as autant d'évangile que tu as besoin, tu vas régler ce problème. Eh bien, c'est cette parole de Paul qu'on va entendre. Et je demande à l'Esprit de Dieu de nous la faire entendre dans notre cœur ce matin, afin que quand on va prendre ce repas de Sainte-Cène, ou quand on va se souvenir de ce qu'il a fait pour nous, on puisse en même temps réaliser à quel point nous avons de la valeur et du prix à ses yeux. Et que de ce côté-là, Dieu nous a satisfaits et peut totalement nous satisfaire. Et si nous sommes comblés là, on ne va pas le chercher ailleurs. On ne le cherchera pas ailleurs. On fera les choses de manière libre. Si elles sont là, si elles sont acceptées, si les autres apprécient, très bien. Si ce n'est pas le cas, ça ne sera pas la fin du monde pour moi. Ça, c'est la vraie libération. On va prier pour cela. Seigneur, ce que nous voulons, c'est le changement. Mais pas un changement provisoire, Seigneur, pas pour un temps, mais un changement définitif, Seigneur, dans notre vie. Alors nous avons déjà commencé, Seigneur, ou tu as déjà commencé ce changement en nous, Seigneur. Si nous sommes là ce matin et nous pourrions les uns et les autres témoigner de quelle manière tu nous as changés et transformés, Seigneur. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, nous leurrer, nous, Seigneur, bercer d'illusions, Seigneur, en croyant que tout est fait maintenant. Non, sinon nous allons être surpris comme Pierre s'est laissé surprendre ce jour-là à Antioche lorsque ces circoncis sont arrivés. Il a eu peur, il a été intimidé et il a fait quelque chose de contraire à ta parole. Alors Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser surprendre nous aussi, Seigneur. C'est pour cela que devant toi, nous sommes là pour reconnaître, Seigneur, que nous avons besoin encore de l'Évangile. Nous avons besoin de Christ. Seigneur, Christ est notre vie, Seigneur. Et nous voulons vivre, Seigneur, en lui, caché en lui, Seigneur, afin, Seigneur, de pouvoir vivre de manière libérée par rapport aux situations de cette vie, Seigneur. Seigneur, aux circonstances que nous rencontrons. Seigneur Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour moi-même, Seigneur, afin, Seigneur, que cette parole de Paul à Pierre, nous puissions l'entendre ce matin et la recevoir ce matin en te disant oui, Seigneur. Donne-nous un peu plus de cet évangile, Seigneur, en nous, de cette œuvre que tu as faite, Seigneur, dans notre vie, dans notre cœur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, face à la croix, Seigneur, mesurer à quel point nous avons du prix, de la valeur à tes yeux, Seigneur. Et que c'est toi qui nous comble, Seigneur, c'est toi qui nous satisfais, Seigneur. Afin, Seigneur, de ne pas lutter, Seigneur, pour chercher ailleurs, Seigneur, au travers des choses de cette terre, des choses de cette vie, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ce que nous pouvons vivre dans ce domaine les uns et les autres, et les échecs que nous avons encore connus, Seigneur, dans le passé, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais maintenant, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Prions le Seigneur ensemble et demandons à Dieu pour nous-mêmes, priez pour vous-mêmes et demandez à Dieu sa grâce. Demandez à Dieu de vous révéler un peu plus l'œuvre qu'il a accomplie pour vous, afin que nous puissions avancer dans ce changement dans notre vie, Seigneur. Jésus, nous reconnaissons notre faiblesse, Seigneur. Nous reconnaissons notre indignité, Seigneur, et que tout est grâce, Seigneur, avec toi, Seigneur. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Mais tu vois encore les luttes que nous avons, Seigneur. Tu vois encore ces combats, Seigneur. Alors merci pour ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, révèle-nous encore un peu plus l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur. L'œuvre de la croix, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, merci pour la croix, Seigneur. Merci pour cette œuvre si belle et si merveilleuse. Seigneur, sommes là en toi, Seigneur. Sommes en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs, Seigneur, maintenant, Seigneur. Jésus, Jésus, gloire à ton nom. Oui, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Seigneur, si nous vivons, c'est en toi, Seigneur. C'est là que nous voulons vivre, Seigneur. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour ton œuvre. Gloire à ton nom, Jésus.